Radio Grand Ciel présente Un jardin perché, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Une nouvelle émission, chers auditeurs, qui évoquera le grand jardin, la forêt et aussi les arboretums. Vous pourrez ainsi nous écouter chaque mois et mieux connaître le Perche, puisque ce jardin perché sera toujours un jardin du Perche. Pour notre première émission, je suis heureuse de recevoir Alain Vernol. Né dans le Perche, il était journaliste jusqu'en 1997, puis chroniqueur à La Croix. Son activité professionnelle ne l'a toutefois pas empêché de créer un arboretum dans les années 80. Alain Vernol, bonjour.
Bonjour Christiane Blain. Vous avez oublié de dire que j'étais journaliste, mais que j'étais journaliste au Monde.
Voilà, alors journaliste...
Où j'ai passé 35 ans.
Eh bien, très bien. Alors justement, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir être à la fois journaliste et d'avoir eu la passion, parce que je peux parler de passion, puisque je connais cet arboretum. Et il est absolument merveilleux, c'est pourquoi je suis d'ailleurs fort contente de commencer notre émission, notre série d'émissions, par cet arboretum qui se trouve proche de Rémalard. Alors, peut-être avant d'en venir à votre création, ce serait bien pour nos éditeurs de nous dire comment accéder à cet arboretum de Rémalard.
Pour le visiter.
Bien sûr.
Alors vous avez tout simplement l'office du tourisme de Rémalard qui se situe à côté de la poste. Ceci étant dit entre nous, que ça ne soit pas révélé, juste en face de ma maison natale où mon père a été médecin du village pendant 40 ans. Et donc l'office du tourisme, c'est très facile.
L'office du tourisme de Rémalard. Alors, il y a des saisons, je commence justement cette première émission parce que c'est le vrai bon moment pour visiter, pour voir un arboretum. Les couleurs y sont absolument merveilleuses. Alors peut-être donnez-nous aussi les dates qu'il faut...
Alors, l'arboretum est intéressant pour les spécialistes et pour le grand public. Pour les spécialistes, parce qu'il y a beaucoup d'arbres rares, dont je vous parlerai au cours de cette émission ou d'une prochaine émission. Pour le grand public, parce qu'il se pare à l'automne de couleurs extraordinaires, je dis bien extraordinaires,
ah oui.
Des jaunes, des rouges, des oranges, enfin c'est la féerie de l'automne indien américain que tout le monde va voir, à commencer par les Canadiens et les Américains eux-mêmes, qui encombrent les routes de week-end au mois de septembre, octobre et novembre, pour voir ce spectacle extraordinaire, et que les Européens n'hésitent pas à voir aussi, en payant un billet d'avion quand même conséquent, traversant l'Atlantique, atterrissant à Montréal ou à Boston, pour aller voir aussi cet été indien, qui est un phénomène naturel extraordinaire par les couleurs, la beauté des paysages.
Je peux en témoigner parce que l'an passé, j'y étais, et pour les journées d'ouverture, il y avait vraiment beaucoup de monde. D'ailleurs, le Figaro avait averti de ces journées dans le Perche pour admirer vos arbres.
Effectivement, le Figaro avait fait une page me faisant beaucoup de compliments. C'était vraiment très intéressant puisqu'il y avait beaucoup de monde, il y avait une centaine de personnes. Et je dois vous dire que j'ai été surpris par l'affluence des gens. Je ne savais pas où mettre les voitures, où les ranger. Heureusement qu'un paysan, très gentiment, m'a prêté son champ qui n'avait pas été encore ensemencé. Et j'ai pu garer tout près de là une soixantaine de voitures. Voilà,
oui.
Ce qui était un peu une surprise.
Oui, c'était vraiment merveilleux dans le Perche de voir autant de gens absolument passionnés par les arbres. Nous prîmes de nombreuses photos et ce fut un éblouissement. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous est venue cette idée de créer un arboretum dans le Perche?
Alors, vous allez voir que le journalisme est un atout et que le journalisme m'a conduit à Ottawa, à Montréal, à Boston, à New York, plusieurs années de suite, pour faire des reportages, des enquêtes sur la TVA introduite au Canada ou des sujets sur les taux d'intérêt, etc. Des sujets très sérieux. Et puis, il se trouve qu'une année, je me suis trouvé en train d'enquêter juste à l'automne. Et j'ai été surpris par la couleur des arbres. Ça m'a beaucoup bouleversé. Et je suis rentré à Paris et j'ai dit à ma femme, écoute, je viens de voir un spectacle absolument extraordinaire. C'est ce qu'on appelle probablement l'été indien. et il faut que tu viennes voir ça. Et donc l'année d'après, elle est venue avec moi et je lui ai dit, écoute, on va transposer l'été indien, qui est un phénomène américain, enfin canadien et américain, côte est, hein, parce que côte ouest, ça n'existe pas comme ça. Et nous allons le transposer dans le Perche, il n'y a pas de raison. Je vais créer un arboretum et nous aurons des arbres canadiens et américains. Et c'est ce que j'ai fait.
Et cette idée, elle est venue en fin 1978.
Alors, elle est venue, c'est ça, un voyage en 1978, puis un échange avec les Américains, une famille américaine qui est venue pendant l'automne en France, alors que nous, on allait aux États-Unis occuper chacun réciproquement sa maison, voilà.
Alors, il fallait quand même un lieu particulier, parce que j'imagine que... Il faut qu'il y ait une forêt pas loin, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait aussi des paysages qui iront avec cette forêt que vous vouliez à ce moment-là créer.
Oui, alors le plus difficile était peut-être de trouver un endroit adéquat, c'est-à-dire une terre adéquate, une terre acide. Ce n'est pas toujours le cas dans la région, la lointaine région parisienne, où il y a quelquefois beaucoup de calcaire. Bon, il faut d'abord donc des terres acides, ce qui permet aux érables à sucre et aux érables rouges, puisqu'il y a deux familles d'érables qui sont très proches les uns des autres, l'érable rouge qui pousse dans les terres marécageuses et l'érable orange à sucre qui pousse au contraire dans les endroits assez secs. C'est pour ça qu'on les trouve souvent sur les places des villages. Donc il fallait que je trouve ça. Il fallait que je trouve de l'eau. Il fallait que je trouve un beau paysage environnant. Enfin, il y avait beaucoup de conditions. Et j'ai trouvé finalement, après avoir pris la décision et être béni par ma femme et mes enfants, qui m'ont dit « vas-y, fonce et crée-nous cet arboretum, ce Canada dans le Perche », j'ai trouvé un notaire très attentif, qui était un petit peu écolo, et qui m'a dit « j'ai votre affaire, ce sont des prairies en friche que personne n'occupe plus ». Il m'a emmené sur place et l'affaire a été conclue en pratiquement une heure. Quoi.
Voilà. Et en plus, c'était très près, très proche de votre lieu d'habitation.
À 4 km, voilà, absolument. Et j'avais là un plateau sableux. Donc, vous voyez, c'est du sable très sec. La superficie, enfin, la prairie est balayée par des vents assez froids en hiver. Et puis, on descend dans une vallée qui est de la tourbe, au contraire. Alors là, très humide, c'est exactement le contraire. Puis, ça remonte et on se retrouve dans une forêt qui s'appelle la forêt des Minières.
Comment faire ? Vous achetez ce terrain et voilà, vous êtes au pied du mur, si je dois dire.
Alors j'achète ce terrain, mais je n'achète qu'au début que 4 ou 5 hectares. Et puis petit à petit, un paysan prend sa retraite. Il connaissait très bien mon père, puisque c'était mon père qui l'avait soigné.
Mais depuis combien de temps votre famille était dans le Perche ?
Depuis 1922. Où mon père était jeune médecin, sorti de la guerre de 14-18.
Oui, vous achetez donc un terrain d'abord.
J'achète un terrain et le paysan d'à côté prend sa retraite et me dit « Alain Vernol, si vous voulez, je vous vends ma prairie, etc. » C'est comme ça que je me suis agrandi petit à petit et que je suis passé de 4 hectares à presque 14 hectares.
Alors moi, j'aimerais bien que nous revenions au début parce qu'il y a ce champ, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout qu'il y avait des broussailles. Comment était-ce ?
Alors, c'était dans un état épouvantable, puisque c'était des friches, c'était à l'abandon. Il y avait essentiellement des ronces, des aulnes, parce que le terrain était très, très mouillé, quelques bouleaux et beaucoup de ronces. Et alors, je vais vous raconter une anecdote pour vous montrer dans quel état j'ai trouvé ce terrain. J'avais des amis bretons qui étaient là en vacances à la maison, et une fois que j'ai signé, j'aurais dit, écoutez... Je viens de signer, là, vous venez d'arriver en vacances chez moi. On va fêter ça, on va faire un pique-nique sur les lieux que je viens d'acheter. Et on est arrivé avec nos petits paniers, nos serviettes et nos sandwichs, et on a été obligé de faire demi-tour.
Tellement, à ce point-là.
Tellement, ah oui, c'était absolument...
Impénétrable.
Impénétrable. On m'avait dit, méfiez-vous, il y a des vipères. En fait, j'en ai trouvé une en 35 ans, donc c'était pas du tout le problème. Le problème, c'était que c'était envahi par les ronces et tout.
Alors, première
et puis
chose.
Alors, et puis des endroits quand même un peu dangereux, très marécageux, etc. Voilà. Et donc, nous avons fait demi-tour et il a fallu que, au début, la seule voie d'accès au cœur de cette prairie qui allait devenir l'arboretum, la seule voie d'accès, c'était le ruisseau de Boiscorde, que je remontais en botte avec un coupe-coupe, une machette, exactement comme Lévi-Strauss en Amérique du Sud, quand il allait voir ses Borous ou ses Dambikwara dans les forêts profondes. Moi, je n'avais pas d'indigène pour m'attendre avec des flèches empoisonnées, mais il y avait là des sangliers qui se baladaient, parce que là, vous ne l'avez peut-être pas vu l'année dernière, mais je suis entouré d'animaux sauvages.
Oui, mais il y a beaucoup d'animaux dans la forêt de Belém.
Qui me compliquent d'ailleurs considérablement la tâche, parce que quand un sanglier se met à retourner une prairie, ça ne facilite pas la tonte. Et quand un cervidé, c'est-à-dire un grand cerf ou des chevreuils, se mettent à attaquer les arbres qui viennent d'être plantés, ça bousille des arbres rares, et c'est la désolation. Donc je suis obligé d'entourer de grillage tout ce que je plante,
oui.
Ce qui complique considérablement la tâche. Oui.
Donc vous arrivez, le terrain est inaccessible, donc vous allez faire venir quelqu'un pour débroussailler.
Alors j'ai fait appel beaucoup à les entreprises qui ont débroussaillé, labouré.
Il vous a fallu combien de temps pour commencer à penser, maintenant il faut que je plante ?
Un an, et je vais vous dire, à peine un an, et ça a été une de mes premières fautes, c'est que je me suis trop précipité. J'étais tellement impatient et tellement heureux de créer ça, que non seulement j'ai pas assez travaillé avant de planter les arbres, mais également, je pense que j'ai trop planté, trop près les uns des autres.
Mais ça, je crois que c'est bien de le dire.
Une excitation folle, parce que quand vous voulez, je sais que je vous ai coupé, mais là je termine une idée. Quand vous voulez planter des chênes, par exemple, les chênes, j'ai été très excité par les chênes et les érables et les sorbiers. En fait, ce qu'on trouve au Canada et aux États-Unis, côte est, et qui fait l'été indien. Donc, je me suis intéressé aux chênes. Alors, quand vous savez qu'il y a 450 variétés de chênes. Et je vous dirais que c'est surtout en Amérique du Nord et au Mexique qu'on trouve des chênes, c'est pas en Europe. Il y en a énormément en Asie aussi.
Oui.
Il y a énormément de chênes en Asie. Pour 450 espèces, voilà, c'est surtout le Mexique, les États-Unis, côte est, et l'Asie qui ont les plus beaux chênes. Donc quand j'ai commencé à découvrir tout ça, évidemment, on a envie de tout posséder d'un seul coup, et tout planter, tout retenir.
Mais ça, je crois que c'est ce que je voulais dire.
C'est une grosse erreur.
Je crois que c'est très bien que vous le disiez, parce que tous nos auditeurs qui ont envie même d'un petit jardin se précipitent pour planter, et toujours trop près, c'est bien ça.
Alors, je veux dire, le miracle, mais on n'y pense jamais, c'est qu'une petite plante que vous récoltez, soit par échange, soit par un don, soit par un achat chez un spécialiste, soit récolté sur place. Il y a un petit arbre, que ce soit un érable ou un chêne, qui mesure 5 cm, va devenir un arbre au bout de 20 ans ou 25 ans qui peut atteindre 15, 20, 25 mètres.
Vous
verrez, puisque vous avez, je crois, l'intention de revenir me voir.
Oui, bien sûr.
Ces journées, vous verrez des arbres qui ont maintenant 25 mètres de haut.
Très bien.
Alors, on ne pense pas à ça.
Alors, quand peut-on venir là maintenant voir votre...
Alors, la belle saison, c'est 15 septembre, 15 novembre. C'est vraiment les dates extrêmes. Parce que 15 septembre, il n'y a pas encore beaucoup de couleurs, et 15 novembre, il n'y en a plus beaucoup. Mais c'est tous les dimanches, en principe, s'il fait beau, s'il pleut, c'est annulé, évidemment.
Oui.
C'est tous les dimanches à 3h de l'après-midi, et le rendez-vous est fixé devant l'Office du tourisme de Rémalard.
Voilà, donc je crois, chers auditeurs, que vous avez bien compris. Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous écouter pour notre prochaine émission, encore avec Alain Vernol, parce qu'il n'a pas dévoilé tous ses secrets sur cet arboretum. Cette émission pourra être réécoutée sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Alain Vernol.